Voilà, le mois dernier, donc, nous avons ensemble dessiné le cadre général du ministère de Jésus, un ministère qui a duré un peu plus de 3 ans, avec plusieurs allers-retours à Jérusalem, comme Jean, dans son évangile, nous l'indique. Et nous souvenons que les moments à Jérusalem avaient été très particuliers, avec des débats qui tournaient beaucoup autour de l'identité de Jésus, de sa personne. Ce matin, je voudrais que nous considérions ensemble ce qui fait le centre du message de Jésus, un thème qui est au centre du message. Et il y a une ligne, en effet, qui parcourt vraiment tout le ministère de Jésus, du début jusqu'à la fin. Et cette ligne englobe l'enseignement de Jésus, mais aussi son action. Et c'est le fait que Jésus enseigne et manifeste le royaume de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir à cette notion bien présente du royaume de Dieu. C'est une notion clé lorsque l'on réfléchit à la personne de Jésus, à ce qu'il a été, à ce qu'il a fait. Et nous allons juste lire, pour commencer, deux versets. C'est le début de l'évangile selon Marc, au chapitre 1, versets 14 et 15. Marc 1, les versets 14 et 15. Après que Jean ait été arrêté, il s'agit de Jean-Baptiste, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Jusqu'ici, notre lecture, cette première lecture. Il y a ici l'expression « le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu, c'est une expression qui se trouve très peu dans l'Ancien Testament et qui pourtant est très souvent dans les évangiles. On la trouve une centaine de fois, je crois 102 fois, d'après ceux qui ont compté, dans les évangiles, il est question du royaume de Dieu. Surtout chez Matthieu et chez Luc. Mais voyez qu'il y a une grande différence entre la présence de ce thème lorsque l'on parle de Jésus et tout le reste de l'Écriture. Ce qui veut dire que c'est un thème original et qui reflète vraiment un soi propre et conscient de Jésus. À la suite de Jean-Baptiste, donc, Jésus annonce dès le début de son ministère que le royaume de Dieu est proche, ou on peut dire autrement, que le royaume de Dieu s'est approché. Et cette venue du royaume, c'est une bonne nouvelle, nous l'avons lu. Elle se traduit de bien des façons par l'œuvre de Jésus, les guérisons, les délivrances. Elle est aussi une exigence, il faudra chercher ce royaume. On n'y participe pas automatiquement, il faut entrer dans le royaume. Il faut l'accueillir aussi comme un petit enfant. Donc Jésus en parle beaucoup, et pourtant ce qui est étonnant, c'est qu'à aucun moment Jésus ne définit le royaume de Dieu. Il dit jamais « voici ce que j'entends par le royaume de Dieu ». Par contre, Jésus a multiplié les images pour nous faire comprendre un petit peu quelque chose de ce qu'il est, pour susciter l'intérêt autour de cette question du royaume de Dieu, la curiosité éventuellement. Et il n'y a pas moins de 10 paraboles ou 10 comparaisons que Jésus a lui-même forgées pour parler du royaume de Dieu. Et c'est évident que Jésus a voulu nous faire penser sur ce thème du royaume qu'il annonçait et a donné un petit peu de grain à moudre. Plusieurs images sont employées, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est l'image, par exemple, d'un roi qui célèbre le mariage de son fils, de jeunes filles qui attendent l'époux pour participer au cortège nuptial, un festin auquel tous les hommes sont invités, c'est ça aussi le royaume. Ou alors un trésor caché dans un champ et que l'on trouve, une perle rare qui fait la richesse de celui qui la possède, une toute petite graine qui donne un arbre très grand, un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Sa croissance est comme une semence qui, une fois en terre, continue à pousser. Elle est aussi fragile parce que la parole qu'il annonce, elle peut donner plus ou moins de fruits. Ça a été dit dimanche dernier. Voilà, vous voyez, toutes sortes d'images que Jésus emploie pour nous faire réfléchir vraiment sur ce qu'est le royaume. Mais il s'agit de bien définir ce qu'il entend par là. Une autre complexité, c'est que d'un côté, il semble que le royaume est déjà présent, d'un autre côté, qu'il est encore à venir. Tout ça, c'est présent quand on lit les évangiles. Alors, comment est-ce qu'on va ordonner tout cela? Je vous propose quand même d'essayer d'y réfléchir, réfléchir donc à la façon dont on peut concevoir cette réalité que Jésus a manifestée, dont il a parlé. Je crois que le thème du royaume est certainement l'un des exemples de la façon dont Jésus n'a pas voulu se laisser enfermer dans les conceptions toutes faites de son temps. Il se rattache à ce qui est annoncé, d'une part, mais il ne se laisse pas enfermer dans les idées toutes faites des uns ou des autres. On a déjà vu cette liberté de Jésus à l'œuvre par rapport au titre de Messie. Jésus a accepté un certain nombre de titres qui affirmaient sa messianité, qu'il était l'envoyé de Dieu, oui, mais il a eu beaucoup de réticence à le dire ouvertement, toujours. Il ne l'a vraiment manifesté qu'à partir du moment où il pouvait clairement définir dans quel sens il allait être le Messie, c'est-à-dire celui qui donne sa vie pour le salut. Et pareillement, l'idée du royaume de Dieu éveillait un certain nombre de choses chez les contemporains de Jésus, mais l'expression assez peu utilisée restait suffisamment ouverte pour que Jésus puisse y injecter ce qu'il voulait lui y mettre. Mais le faire, pas simplement dans l'arbitraire, à partir de ce qui existait déjà, et en particulier d'abord à partir de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi je voudrais juste dire deux, trois mots sur le thème dans l'Ancien Testament, le thème de la royauté de Dieu ou du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Si l'on regarde dans l'Ancien Testament, le thème du règne de Dieu se trouve à bien des reprises. Le thème du règne de Dieu. À plusieurs reprises, on affirme « le Seigneur règne ». Alors, il y a d'abord l'affirmation de principe, hein, comme je l'ai dit. Alors, d'autres textes, psaume 93, verset 1. « Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté. Le Seigneur est saint de force, et c'est pourquoi le monde est ferme et ne chancelle pas. » L'affirmation de principe. Ce règne se manifeste aussi par les œuvres du Seigneur, les œuvres présentes et les œuvres à venir. Et dans les psaumes encore, on loue le Seigneur pour ses œuvres présentes et on attend aussi qu'il manifeste encore sa pleine puissance, sa pleine bonté. Psaume 145, par exemple, à partir du verset 10. « Toutes tes œuvres te loueront au Seigneur. » Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, la splendeur glorieuse de ton règne. Car ton règne est un règne de tous les siècles. Ta domination subsiste dans tous les âges. Vous voyez les questions là du règne de Dieu qui dure éternellement, qui est là, une réalité pleinement manifestée. Mais c'est aussi un règne qui est fait vraiment par toutes les œuvres du Seigneur, qui sont déjà visibles, qui louent le Seigneur et qui font qu'on le chante. Donc le règne de Dieu manifesté dans ses œuvres. Cette certitude que Dieu règne est aussi pour tous les croyants une espérance et un recours. Savoir que Dieu règne, c'est quelque chose qui donne de la force. Ça invite à mettre sa confiance en Dieu. Et le psaume 146 est un psaume qui, par exemple, dit très fortement, qui dit que Dieu règne éternellement et dit « Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, ce n'est pas eux qui pourront vous aider. » Et ça, il faut qu'on l'entende, nous, aujourd'hui, hein, dans ce siècle où la technique fait qu'on a toujours confiance dans les hommes. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, mais mettez-la dans le Seigneur. Il faut bien entendre cette réalité-là. C'est lui qui délivre, mais elle chante en même temps le privilège d'avoir un Dieu comme lui, un Dieu qui s'occupe de chacun, un Dieu qui fait droit aux opprimés, un Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Et dire l'Éternel règne, c'est dire aussi on a un recours. Et puis, dire l'Éternel règne, c'est aussi, quatrièmement, avoir confiance qu'un jour cela se verra. Ça se verra plus largement, ça se verra totalement. Et le psaume 22, par exemple, qui est un psaume qui dit la difficulté du juste qui est abandonné par Dieu. Et c'est un psaume, vous savez, que Jésus a prié sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a des moments de la vie où c'est difficile. Même les justes peuvent avoir l'impression qu'on ne voit pas vraiment l'action de Dieu. Mais la fin de ce psaume, est une parole d'espérance avec des perspectives très larges. Et il est dit, toutes les extrémités de la terre penseront au Seigneur, se tourneront vers lui. Toutes les familles et des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Et vous voyez que là, quelqu'un qui pourtant vit des moments très difficiles, juste abandonné, garde la perspective de dire, mais il y a quelque chose que Dieu a en réserve, cela se manifestera, ce sera large, toutes les familles de la terre confesseront vraiment le Seigneur, et on se fixe sur cette perspective. Et Jésus, à la croix, a aussi gardé ce regard. Et au travers de ce qu'il allait passer, et il savait qu'il serait aussi le moyen par lequel il allait pouvoir permettre que cela se réalise. Mais lorsqu'il a été complètement abandonné par son Père, il a pu garder encore cette perspective d'espérance. Alors si on essaye de se représenter ce que peut signifier ce règne large une fois qu'il est abouti, il y a encore quelques perspectives qui sont données, et l'image qui s'impose, c'est celle d'une harmonie totale. D'une harmonie totale qui se résume dans un mot qui est le mot de paix. Vous savez que le mot paix, shalom en hébreu, ça dit vraiment toute l'harmonie. Et il y a un texte magnifique, encore un texte des psaumes. C'est souvent dans la piété qu'on se rend compte que ces choses-là prennent vie, prennent corps. Le psaume 85 dit « J'écouterai ce que dit le Seigneur, car il parle de paix, de shalom, à son peuple et à ses fidèles. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que sa gloire habite dans notre pays. » La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre. La justice regarde du haut des cieux. Le Seigneur accordera aussi le bonheur et notre terre donnera des fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Wow. Quand on pense à cela, c'est vraiment l'idée d'une harmonie la plus totale. Le règne de Dieu, c'est cette harmonie-là. Une fois achevé, c'est cela ce qui est chanté. Donc, si je résume un peu les choses, il y a dans l'Ancien Testament toute une ligne très dynamique qui affirme que le Seigneur est roi, le Seigneur de l'histoire, le Seigneur de la création. Ça permet d'attendre son action, son intervention, et une espérance forte se rattache à cette conviction que le Seigneur règne. Cela aide dans le temps présent, cela permet d'attendre aussi l'harmonie de ce qui se manifestera plus tard. Voilà, si vous voulez, pour cette ligne sur le règne de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, toujours par rapport à l'Ancien Testament, il existe une autre manière de parler de royaume ou de royauté. Et justement, c'est d'évoquer, non pas l'idée d'un règne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parler d'un royaume. Alors, lorsqu'on parle d'un royaume ? En général, lorsqu'on parle d'un royaume, cela évoque un territoire, d'une certaine façon, sur lequel quelqu'un gouverne, avec des signes concrets aussi et visibles de cette royauté. Alors, en général, quand il y a un royaume, il y a une capitale, il y a une administration, il y a des représentants de l'autorité de celui qui règne. Et c'est sur un territoire qui est délimité. Et vous voyez que quand même, il y a une assez grande différence entre parler d'un règne et parler d'un royaume. Quand on parle d'un règne, l'idée du règne, c'est une idée dynamique, une idée active. Dieu règne, c'est son action qui est en cause. Dieu règne par son action, et partout où se manifeste l'action de Dieu, se manifeste d'une certaine façon le règne de Dieu. C'est actif, c'est dynamique. Quand on parle d'un royaume, on parle de quelque chose de beaucoup plus figé. Un territoire avec une domination installée, institutionnalisée. Un exemple pour parler du langage du royaume, c'est ce qu'il est dit du royaume ou du règne de Salomon. 1 roi 4, verset 21. Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière de l'Égypte, et ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Ça, c'est un royaume. On dit les frontières, et puis on dit que tous les gens qui sont là, ils apportent au souverain ce qu'il doit recevoir. L'idée d'un royaume. Alors au moment où Jésus paraît, le royaume de David, qui avait été tellement bien incarné par Salomon, c'était l'apogée d'ailleurs du royaume de David, ce royaume de David n'existe plus depuis longtemps. Ce sont les Romains qui gouvernent sur Israël. Et certains attendent le rétablissement d'un royaume, du royaume de David, d'une certaine façon, sur Israël. Et même qu'à partir d'Israël, ce royaume s'étende à d'autres nations, avec éventuellement aussi l'idée de la loi de Moïse qui est imposée à toutes ces nations. Et la question qui se pose, c'est lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, est-ce que c'est de ce type de royaume qu'il parle, ou est-ce qu'il parle plutôt de quelque chose qui ressemble à l'idée un peu plus dynamique du règne de Dieu, hein ? Un royaume, est-ce que Jésus parle, a voulu établir un royaume qui, partant de Jérusalem, se répand un peu partout, se manifeste un peu à la façon du royaume de Salomon, simplement avec Jésus à sa tête en quelque sorte, ou est-ce qu'il a voulu parler d'une manifestation de l'action de Dieu, du règne de Dieu ? Vous voyez que quand même, selon la façon dont on conçoit les choses, ça amène une image un peu différente. Hein ? Voilà. Autre question concerne la question du moment où le règne de Dieu se manifeste. Est-ce que le règne de Dieu va se manifester par une sorte de changement dans l'histoire, hein ? Par exemple, imaginons que voilà, les Romains soient chassés et que quelqu'un prenne sa place, le gouvernement. Et donc, il y a un changement dans l'histoire qui fait que le cours de la vie est différent. Hein ? Est-ce que c'est ainsi que se manifeste le royaume, d'une manière continue dans l'histoire ? Ou alors, est-ce que lorsque le royaume intervient, est-ce que c'est une intervention décisive, majestueuse du Seigneur, qui n'est pas dans le cours de l'histoire, mais qui est là à la fin de l'histoire, qui marque la fin de l'histoire pour partir sur autre chose ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les siècles qui ont précédé Jésus, les deux siècles avant la venue de Jésus, s'est beaucoup développé l'idée que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, viendrait à la fin de l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'histoire humaine arrive à son terme, il y a un jugement, et la fin de l'histoire humaine, il y a ce qu'on appelle le jour du Seigneur, où le Seigneur intervient, où le Seigneur fait du neuf, on part ensuite dans l'âge à venir, c'est la fin de l'histoire humaine, et c'est une autre histoire qui commence, et le royaume de Dieu, le règne de Dieu, arrive à ce niveau-là. Si vous voulez, c'était vraiment la conception qui s'était beaucoup développée, de dire l'histoire humaine a une certaine durée, intervient le jour du Seigneur, grand jour, grand changement, et ensuite c'est le royaume qui appartient à l'âge à venir. Hein. On disait, il y a l'âge présent, le temps présent, et il y a l'âge à venir, qui est quand Dieu fait toutes choses nouvelles, et le règne de Dieu se manifeste à ce moment-là. On s'appuyait beaucoup, si vous voulez, sur des textes de Daniel qui parlaient d'un règne éternel qui venait remplacer tous les royaumes des puissants, qui venait par le Fils de l'homme qui allait venir sur les nuées établir son règne. Et puis on mettait ça en relation avec tous les thèmes qui parlent du jour du Seigneur, qui est aussi le jour du jugement. Hein, le jour du Seigneur, jour du jugement. Donc, si vous voulez, la séquence, c'est histoire humaine, l'âge présent, jour du Seigneur, jugement, et l'âge à venir avec le règne de Dieu, le royaume. C'était le schéma qui était développé, qu'on appelle le schéma apocalyptique, si vous voulez. C'était l'idée d'un changement comme cela. Alors, qu'en est-il exactement pour Jésus ? Comment est-ce que Jésus voit les choses, hein ? Donc, si je résume la situation au temps de Jésus, il y avait l'idée forte du règne de Dieu qui se manifeste par l'action de Dieu. Il y avait l'idée d'un royaume sur le modèle du royaume de Salomon. Et puis, il y avait une idée d'un règne éternel de Dieu qui n'intervient qu'au jour du Seigneur, lorsque le Seigneur juge les peuples et met fin au temps présent pour faire une réalité nouvelle. Ça, c'était ce qui était en cause, ce qui était dans l'esprit des gens lorsque Jésus parlait. Alors, maintenant, il faut dire un mot de la liaison entre Jésus et Jean-Baptiste. Donc, après l'Ancien Testament, quelques mots sur Jésus et Jean-Baptiste. En l'an 28, donc, Jean-Baptiste apparaît sur les devants de la scène, il prépare les chemins du Seigneur. Quelle est la conception de Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste proclame « Le royaume de Dieu est proche hein ». Si on lit dans Matthieu chapitre 3, verset 2, « Le royaume de Dieu est proche », c'est une grande proclamation que fait Jean-Baptiste, où il s'est approché. Il y a aussi une interpellation qui est liée à cette affirmation que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez d'attitude. Toujours Matthieu chapitre 3, verset 2. Autrement dit, parce que le royaume de Dieu est proche, il faut changer d'attitude spirituelle. Il faut revenir à Dieu. Il faut confesser ses fautes. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste fait un thème de repentance. Et il faudra ensuite produire des fruits de cette repentance. Et puis, dans l'horizon de Jean-Baptiste, quand il annonce le royaume de Dieu qui est proche, il annonce autre chose. L'autre chose qui est annoncée, c'est la proximité, l'imminence du jugement. Il est dit, le royaume de Dieu est proche, vient celui qui va juger. Hein? Et c'est ainsi qu'il décrit celui qui va venir. Il baptisera dans l'esprit et dans le feu. Il baptisera d'esprit et de feu. Et lorsqu'il parle de baptiser de feu, il dit très clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire le jugement, puisqu'il dit le blé sera amassé dans le grenier du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui forment son peuple, ceux qui appartiennent à Dieu, seront rassemblés dans sa maison, dans son royaume, on pourrait dire, et les autres seront jetés à la paille, qui seront comme jetés dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le fait que Jean parle d'un feu qui ne s'éteint pas, ça veut dire vraiment qu'il pense au jugement final, définitif. Donc dans la perspective de Jean, l'idée c'est la suivante. On est à un moment vraiment dramatique de l'histoire. L'histoire arrive à un tournant. Alors c'est sûr que Jean n'annonce pas un changement politique en disant il y aura un nouveau roi, etc. Hein, c'est beaucoup plus radical que ça. C'est pas ça va changer, mais c'est vous devez changer. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Et puis l'urgence est là parce que le jugement s'approche. Vient celui qui va faire le grand tri, et donc il faut être prêt, il faut se mettre en règle, et c'est pourquoi il s'agit de revenir, de se convertir. Il faut échapper à la colère à venir. Vous voyez là, me semble-t-il, la vision de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus paraît, Jésus semble embrayer sur Jean-Baptiste. Hein? Ses disciples baptisent pendant un temps, comme Jean-Baptiste l'avait fait, et son message est très très proche, nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus parle aussi du royaume de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu, il n'y a aucune différence entre le message de Jean et celui de Jésus. Alors c'est juste pour dire qu'il y a une vraie continuité. Si vous regardez dans Marc, c'est un peu plus explicite. Et ça permet de dire, oui, il y a continuité, comme le dit Matthieu, mais il y a aussi des différences. Hein? Et quel est le message de Jésus ? Continuité, Jésus dit, donc je relis ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La continuité, c'est de dire, oui, le royaume de Dieu est proche, ou le royaume de Dieu s'est approché. Mais il y a une affirmation nouvelle par rapport à ce que disait Jean. L'affirmation nouvelle, c'est que Jésus dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Autrement dit, Jésus dit clairement que c'est maintenant le temps où s'accomplit l'espérance des prophètes. Jean disait, l'accomplissement va venir. Jésus dit, le temps est là, c'est maintenant. Autrement dit, entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a la même différence qu'entre 23h et minuit. Minuit, si c'est le moment clé, à 23h, on est avant ce moment. Jésus dit, maintenant, c'est le temps, c'est minuit, c'est l'accomplissement. Et cette idée de l'accomplissement est quelque chose que Jésus souligne dès le début de son ministère. Vous vous souvenez que dans sa prédication qu'il a faite à Nazareth dans sa ville, on lui demande de lire le rouleau un jour à la synagogue, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. On attend que Jésus fasse un commentaire sur cette parole qui dit vraiment les temps à venir, tout ce qui est promis par les prophètes. Et le commentaire que Jésus fait, c'est aujourd'hui, cette parole est accomplie. Donc Jésus vraiment se situe dès le début dans cette perspective-là. L'accomplissement, c'est maintenant. Mais quel est-il ce temps ? Pour Jean-Baptiste, le temps qui était annoncé, c'était le temps du jugement. Il faut se préparer parce que vient celui qui va faire le grand tri. Il baptisera du Saint-Esprit aussi ceux qui se donneront à lui, mais qui fera le grand tri. Pour Jésus, le temps qui est arrivé, c'est le temps de la bonne nouvelle du salut. Jean-Baptiste annonce le jugement, Jésus annonce la bonne nouvelle du salut. Repentez-vous, dit Jésus, et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est aussi ce que disait ce fameux passage d'Ésaïe 61 que Jésus a commenté à Nazareth. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Autrement dit, entre Jésus et Jean, il y a une différence fondamentale de la manière de concevoir le royaume de Dieu. Pour Jean, c'est une affirmation forte et musclée de la justice de Dieu. Le Seigneur fait le tri, le Seigneur punit les méchants, jette au feu ceux qui font le mal, et se forge un peuple nouveau qui sera tout différent. Et ce grand tri marque la fin du temps présent. Pour Jésus, le règne de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et c'est l'affirmation que dès maintenant, une nouvelle réalité est présente dans le monde. Cette nouvelle réalité proclame la délivrance, le salut, le temps de la faveur de Dieu. Autrement dit, ce qu'on attendait pour la fin, ce qu'on attendait pour après le jugement, Jésus dit, c'est déjà là maintenant. On attendait pour la fin, après le jugement, à la faveur de Dieu, etc. Jésus dit, c'est déjà là maintenant, c'est déjà donné, c'est déjà offert. C'est comme si, si vous voulez, le futur était rentré dans le présent, et si quelque chose de ce qui doit venir était déjà à l'œuvre maintenant. Et ceci sans qu'il y ait le jugement des méchants. Vous voyez que entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a un même langage, mais en même temps, une manière très différente de penser le royaume de Dieu. Et ça, c'est certainement une des choses qui explique le désarroi de Jean après. Jean a été arrêté par Hérode, et il s'est retrouvé entre les mains des méchants, et lui attendait qu'il y ait enfin le grand tri, que les méchants soient punis. Et il voit rien, et en plus, lui, il souffre de ça, il est en prison tous les jours. Rien ne se passe. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, mais attends, mais est-ce que tu es celui qui devait venir ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Et Jésus répond en disant, écoute, regarde ce qui se passe. Regarde l'œuvre que je fais. Regarde les aveugles qui voient. Regarde les captifs qui sont délivrés, etc. Vous voyez, il y a là une différence de conception. Alors maintenant, on va entrer un peu plus dans la façon dont Jésus parle et manifeste le royaume de Dieu. Et une chose qui est claire lorsqu'on lit les évangiles, c'est qu'autour de Jésus, il y a vraiment la bonne et la grande nouvelle que le royaume de Dieu, il est déjà là, il est déjà présent. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise tout ce qui se passe autour de Jésus. Les évangiles sont remplis de la joie du royaume de Dieu déjà présent en Jésus. Jésus, par toute son action, manifeste la présence de ce royaume de Dieu. Alors comment ? Il y a les miracles. Les miracles qui montrent la puissance de Dieu à l'œuvre. On voit Jésus qui guérit les malades, qui soulage les maux de ceux qui sont blessés, qui redresse ceux qui sont courbés, qui ouvre les yeux aux aveugles. Et vraiment, c'est le signe d'une réalité nouvelle qui est là. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit en Jésus de manière très claire, c'est incontestable. Et ça traduit bien des choses, ça traduit la puissance de Dieu. Il agit avec puissance, rien ne peut lui résister. La maladie ne lui résiste pas, les éléments du monde créé ne lui résistent pas. Une tempête, Jésus peut l'apaiser. Même du pain, quand il y a des gens qui ont faim, Jésus peut en donner à toute une foule par un miracle. Pas même la mort ne peut résister puisque Jésus opère quelques résurrections. C'est vraiment le règne de Dieu qui se manifeste sur toute chose. C'est évident quand on voit Jésus que Dieu règne sur tout, que Dieu agit vraiment. Et en même temps, ce qui est assez remarquable, c'est que on découvre que le règne de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement bienfaisant. Là où Jésus passe, là où Jésus manifeste ce règne de Dieu, mais ça fait du bien à tout le monde. C'est que du bonheur qui est donné. Et je crois qu'il faut juste le mesurer. Nous, parfois, quand on parle de Dieu qui règne, ça veut dire « il faut lui obéir et tout, c'est une histoire très, très dominatrice et tout ». Le règne de Dieu, quand on le regarde au travers de Jésus-Christ, c'est Dieu qui apporte vraiment toute son harmonie, qui apporte vraiment toute sa générosité. c'est aussi le Dieu qui réconcilie avec lui-même. Et Jésus a tenu à dire cela à des moments quand il a guéri quelqu'un, quelqu'un est venu pour lui guérir, pour être guéri, Jésus lui a d'abord dit « tes péchés sont pardonnés ». Et ensuite il a dit « pour que vraiment vous compreniez que j'ai la puissance de pardonner les péchés, je vais te guérir ». Donc ce que Jésus voulait dire, ce qui est vraiment essentiel, c'est le pardon de tes péchés. Je t'apporte cela et comme preuve, je te guéris. Donc tout cela dit, les miracles donc montrent vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre, un Dieu qui agit vraiment. Un autre aspect de ce règne, c'est la victoire sur le mal. Et je crois que c'est important de le noter aussi. Jésus délivre bien des personnes qui sont sous l'emprise du diable, sous l'emprise de forces occultes mauvaises. Et Jésus vraiment a agi de cette vraiment très fortement par rapport à cela. Et c'est aussi une manifestation du royaume de Dieu. À un moment donné, quand on lui dit mais c'est par Satan que tu chasses les démons, j'ai dit écoutez, bon, si Satan est divisé contre lui-même, il se met une balle dans le pied, c'est pas comme ça qu'il va réussir à avancer. Mais il dit par contre, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc c'est très clairement une manifestation du règne de Dieu, du royaume de Dieu, que le fait de chasser les démons. Et il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Et Jésus se décrit ici comme celui qui est en train de piller le diable, et en ayant lié vraiment sa puissance. Et cette idée que Jésus a autorité même sur les démons, c'est quelque chose qui est très présent. Et là aussi, ça manifeste vraiment le règne de Dieu. Et c'est important parce que ça montre que Jésus n'est pas indifférent au mal, n'est pas du tout indifférent non plus à l'action de l'adversaire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de jugement que Jésus est complètement indifférent au mal qui se passe. Il délivre ceux qui sont sous l'emprise du mal. Troisièmement, le langage lui-même de Jésus présente le royaume de Dieu comme une réalité présente. Jésus dit vraiment, maintenant que le règne de Dieu est là, ça veut dire la faveur de Dieu manifestée envers tous, et même envers ceux que l'on considère comme les plus indignes, les exclus de toute bonté de Dieu, de toute faveur de Dieu. Il y a comme partout, il y avait des gens qui étaient des pécheurs, des gens qu'on pouvait facilement montrer du doigt, et Jésus a eu soin vraiment de dire, ceux-là aussi sont au bénéfice de l'accueil de Dieu, s'ils se repentent bien sûr, ceux-là aussi vraiment peuvent bénéficier des bienfaits du royaume de Dieu. Et donc, lorsque Jésus parle de ces personnes, voilà la façon dont il dit, il parle aux pharisiens et aux gens qui disaient, mais c'est pas pour eux. Jésus dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devance dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire. Juste ce qui est intéressant, dans le langage de Jésus, et je l'ai vérifié, Jésus ne dit pas, comme certaines traductions le disent, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Mais Jésus parle au présent. Et dit, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que le fait de recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, c'est vraiment participer déjà maintenant au royaume de Dieu. Et ces gens qui sont accueillis par Jésus, qui bénéficient du pardon de Dieu, ils devancent déjà maintenant les autres dans le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose que Jésus avait dit aussi à Nicodème, Jésus parle d'une nouvelle naissance. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais lorsque l'on fait cette démarche, il est possible d'entrer déjà dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est présent pour tous ceux qui s'ouvrent vraiment au Seigneur et à sa grâce. Et puis, dernier point que j'aimerais souligner, c'est que Jésus a aussi lié la présence du royaume à sa présence à lui, au milieu des hommes. Alors il dit les choses un peu discrètement, mais il les dit quand même. Il y a à un moment donné une controverse entre les pharisiens et Jésus que Luc nous rapporte, dans Luc 17, versets 20 à 25. Les pharisiens, nous dit Luc, demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» C'est la grande question. Quand est-ce que ça va venir ? Jésus répond « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il continue en disant à ses disciples, « Des jours viendront, vous désirerez voir les jours du Fils de l'homme, et vous ne les verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas. Mais comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » J'ai lu tout le passage, parce que je crois que l'ensemble du passage éclaire dans quel sens Jésus dit « Le royaume est au milieu de vous ». Dans la suite de ce passage, Jésus lit le royaume à quoi ? Au jour du Fils de l'homme. Hein ? Il s'identifie donc lui-même à cette réalité du royaume. Il souligne aussi qu'il devra beaucoup souffrir avant le plein achèvement du royaume. Et cela rappelle que le mal n'est pas laissé de côté, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Jésus manifeste la présence du royaume avant le jugement final, mais pourquoi est-ce qu'il le fait ? Pourquoi est-ce qu'il peut le faire ? Il peut le faire parce qu'il prendra sur lui la condamnation que méritent nos fautes. C'est pour cela qu'il peut dire qu'avant le jugement, déjà, le royaume peut être annoncé et peut être ouvert et sans qu'il y ait le jugement. Donc on ne nuit pas à la justice de Dieu. Donc il y a un lien entre la mort de Jésus, qui doit souffrir beaucoup, et cette anticipation du royaume qui peut déjà être annoncée, où le royaume précède le jugement. C'est parce que Jésus meurt que justement, il peut faire venir le royaume comme une bonne nouvelle, comme un accueil avant le jugement. Mais en même temps, Jésus ici identifie la présence du royaume de Dieu à sa personne. Et là, ça va plus loin que simplement de dire son action, c'est plus « je fais des miracles », mais c'est moi, je suis au milieu de vous, à cause de ma personne. Hein, et là, ça rappelle un peu ce qu'on a lu tout à l'heure dans le prologue de Jean. Jésus avait conscience qu'il était celui qui venait d'auprès du Père et qui manifestait la présence même de Dieu. Alors, si je résume un peu ces lignes, ce que Jésus manifeste, c'est beaucoup plus un règne de Dieu. Hein, le règne de Dieu qui se manifeste dans toute son action. Hein. En Jésus se manifeste l'action de Dieu. Hein. Et partout où se manifeste cette action de Dieu, là est le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est donc une notion dynamique que Jésus déploie, hein, que Jésus met en œuvre. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de l'action du Seigneur qui règne. Et en Jésus, elle se manifeste de manière toute particulière. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume sur un domaine avec toutes sortes de choses qui manifestent cette domination. C'est dans l'action, du Seigneur que cela se manifeste. Cette action, c'est un bienfait de Dieu pour l'humanité et pour sa création. Et c'est pourquoi l'annonce du royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle quand Dieu règne, parce que ça apporte l'harmonie, parce que ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits. Et on le voit déjà en Jésus. Mais en même temps, quand on dit que le royaume de Dieu se manifeste est déjà présent en Jésus, cela veut dire que cette manifestation du royaume, c'est autre chose qu'un simple signe ponctuel. Ce n'est pas juste dire « il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un royaume ». Ce n'est pas juste un signe ponctuel. Lorsque se manifeste en Jésus le royaume, c'est l'inauguration de quelque chose qui va continuer. Le royaume de Dieu s'est approché. C'est une inauguration de quelque chose. Jésus inaugure une réalité nouvelle dans le monde. Le temps s'est accompli. On est déjà dans une espèce d'anticipation de ce qui trouvera un éclat total plus tard. Il y a déjà une anticipation de cela. Et c'est très très important de voir cela. Lorsque l'on considère les choses, c'est vraiment dans cette continuité qu'il faut voir les choses. Hein. Et ce qui est important, et je crois que c'est important pour nous, hein, le royaume de Dieu, c'est pas simplement dire, voilà les choses qui se sont passées au temps de Jésus, c'est fini. C'était bien à cette époque-là. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui a commencé avec Jésus, mais qui a commencé pour continuer et qui anticipe la suite qu'on attend encore. Et ça, c'est vraiment très important de nous noter. Et je crois que nous, parfois, on a une espèce de nostalgie du temps de Jésus. Ah, c'était bien en son temps-là. Comme si en son temps-là, c'était une chose et maintenant, c'est autre chose. Non, Jésus a inauguré une réalité nouvelle. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de quelque chose qui a été inauguré, mais inauguré pour continuer et inauguré pour aboutir. Et c'est ici que j'arrive à un point suivant, qui est de dire que Jésus, en parlant du royaume, a pleinement dit, oui, en effet, il y a quelque chose de nouveau qui commence là maintenant dans l'histoire, mais c'est aussi l'attente d'une réalité à venir. Jésus aussi a parlé d'attendre le royaume, hein, même s'il disait, il est là au milieu de vous. En même temps, il y a cet autre aspect. C'est une réalité encore à venir. Alors, quelques exemples. L'exemple le plus clair, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Il enseigne à ses disciples à prier, et à prier régulièrement cette prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein ». Il y a donc une attente, et même plus qu'une attente, une aspiration à entretenir. Si nous sommes invités à prier régulièrement que ton règne vienne, ça veut dire que Jésus désire que nous aspirions à cette réalité à venir, qu'on fasse de ça notre propre désir. Les béatitudes ont la même saveur de quelque chose où le royaume est encore à venir. Alors, c'est un peu plus compliqué. D'un côté, Jésus déclare « heureux les pauvres de cœur », c'est-à-dire ceux qui ont une âme de pauvre. « Heureux vous qui avez une âme de pauvre, car, dit-il, le royaume de Dieu est à vous. » Ou « heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. » Alors c'est intéressant, Jésus en parle au présent. Il est à vous. Mais ensuite, dans toutes les béatitudes, toutes les bénédictions qui sont données au futur. Heureux les pauvres, car du cœur le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc d'un côté, le royaume de Dieu est à eux. Ils sont entrés dans ce royaume. Mais d'un autre côté, c'est clair qu'il y a des choses à voir encore. Il y a un avenir, il y a quelque chose qui ne se manifestera que plus tard. Hein, c'est plus tard qu'on verra tout ce qui est contenu dans ce qui est déjà vécu. Et Jésus a parlé très clairement d'un moment décisif, qui est le moment où le Fils de l'homme, et il se désigne lui-même de cette façon-là, viendra sur les nuées avec puissance et avec beaucoup de gloire. Hein. Il y aura un moment où Jésus dit, il reviendra, lui, en gloire. Et Jésus invite à attendre ce moment. Et il dit à ses disciples, attendez vraiment que ce moment où le Fils de l'homme viendra. Et soyez vigilants, soyez prêts, soyez actifs pour le moment où cela viendra. Et Jésus dit à ce moment-là, lorsque le Fils de l'homme viendra sur les nuées, il s'assiera sur le trône de Dieu, et à ce moment-là aussi, il jugera les nations. Donc, le thème du jugement, on le retrouve. Donc Jésus l'annonce comme un thème à venir, bien sûr, mais c'est donc au moment où il viendra sur les nuées. Et c'est à ce moment-là où d'un côté, certains seront jetés vraiment dans le feu éternel, et d'autres seront invités, nous dit Jésus, à prendre possession du royaume, hein, qui sera cette fois-ci pleinement achevé. Donc vous voyez, Jésus aussi a mis cela en perspective. Hein. Et cette réalité achevée du royaume, c'est aussi une réalité où tout le peuple de Dieu, de tous les âges, goûtera les bienfaits et le triomphe de Dieu. Hein, et Jésus on a parlé comme d'un grand festin. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident. Ils se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et ils se mettront à table ainsi dans le royaume de Dieu. Juste pour dire, il y aura vraiment une grande fête. Donc Jésus très très clairement a aussi présenté le royaume comme à venir. Donc, c'est un peu plus complexe que ce que ça paraît, cette histoire du royaume. D'un côté, c'est déjà inauguré, et il faut prendre conscience vraiment qu'il y a une nouvelle réalité qui est en route, qui est inscrite dans l'histoire avec la venue de Jésus, c'est clair. Et en même temps, il n'est pas encore achevé. On n'est pas encore dans le temps de la gloire, on n'est pas encore dans le temps de l'harmonie finale, où vraiment Dieu règne pleinement sur toute chose, où la justice et la paix s'embrassent, etc. Il y a une inauguration et quelque chose qui est encore attendu. Et alors Jésus donc a eu soin d'expliquer ces deux aspects, hein, et de montrer comment on peut les mettre ensemble. Et parce que c'est dans cette condition-là qu'il faut qu'on considère les choses. Alors, et c'est là que Jésus a vraiment développé tout son talent pour faire comprendre les choses, et Jésus a utilisé les paraboles. Et par bien des paraboles, bien des images, Jésus a voulu faire comprendre comment ça fonctionne. Ce que moi j'essaie de vous dire de manière un peu compliquée, j'espère que je vous largue pas avec tout ça, Jésus, il a réussi à le dire de manière très simple avec des images, des paraboles. Alors, là maintenant, vous allez tout comprendre grâce à Jésus. Du côté déjà présent, pour dire le royaume de Dieu est déjà là. Jésus a souligné fortement que le royaume de Dieu, c'est une réalité en marche. Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme lorsqu'un homme jette une semence dans la terre. Que cet homme dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence grandit sans qu'il sache comment. La terre produit elle-même d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on met la faucille, car la moisson est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le royaume s'est planté, enfin il est planté, il est planté en terre, pardon. Le royaume de Dieu, il est planté en terre, comme une semence, il est là, que vous... Quoi que vous fassiez, que vous travailliez, que vous ne travailliez pas, que vous dormiez, que vous faites autre chose, ce qui est planté avance. C'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus a dit pour dire, écoutez, ça y est, c'est lancé. Il y a quelque chose en route, vous ne l'arrêtez pas. Voilà, c'est tout simple, hein, ça, on comprend bien. Hein. Ensuite, mais le fait que ce soit planté comme ça ne veut pas dire que tout est accompli. Parce que Jésus a tenu à dire qu'il y aurait un délai. Et par exemple, Luc 19, versets 11 à 12. On s'approchait de Jérusalem. Et les gens croyaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Et c'était près de la Pâque, et au moment de la Pâque, tout le monde pensait que tout allait être chamboulé. Jésus dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et pour revenir ensuite. Et ensuite, il demande compte à ses serviteurs. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Tout le monde dit, le royaume de Dieu, ouh, ça vient, on va le voir. Je dis, écoutez, un homme est parti se faire investir de l'autorité royale et c'est seulement ensuite qu'il revient. Autrement dit, il y aura du délai. On n'y est pas encore. Et se faire investir de l'autorité royale pour Jésus, c'était lui dont il parlait. Ça voulait dire quoi, se faire investir de l'autorité royale? Par quoi Jésus devrait passer pour se faire investir de l'autorité royale? On s'approchait de la croix. Et pour se faire investir de l'autorité royale, Jésus a dû mourir, ressusciter, monter au ciel. Donc Jésus dit, avant que le royaume n'arrive, là, quand vous dites ça va venir tout de suite, il y a des choses qui doivent se passer, et en particulier la mort, la résurrection, et ensuite, quand je reviendrai, on donnera du compte. On ne peut pas brûler ces étapes. Là, on comprend bien aussi, hein, les deux choses. Hein. Alors, autre contraste que Jésus souligne, c'est la différence entre les petits commencements et le résultat final. Deux paraboles complémentaires que vous connaissez, et si vous descendez à l'exposition de Jacques Richard, vous les verrez illustrées. Il proposa une autre parole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, ça devient le plus grand arbre. Et tous les oiseaux se réfugient sous ses ailes. Voilà, ça commence petit. N'ayez surtout pas peur si c'est petit. Ce qui commence petit va devenir quelque chose de très grand, de très beau. Ayez confiance dans cela. Vous voyez, là, on fait le lien entre déjà et pas encore avec ça. Hein? Et aussi cette autre parabole, c'est comme du levain. Vous mettez du levain dans une pâte, un tout petit peu de levain, mais ça peut vous faire monter vraiment toute une pâte. Le royaume de Dieu, on n'en voit pas non plus forcément la portée, mais il est d'une valeur immense, nous dit Jésus. Et c'est pourquoi il dit ça mérite qu'on lui donne priorité sur tout. Et c'est pourquoi il compare aussi ce royaume à un trésor qu'on trouve dans un champ. Quand on a trouvé ce trésor, on essaye si on peut d'acheter le champ, et ça permet vraiment de tout bénéficier, oui. Et ça vaut la peine même de vendre tout ce qu'on a pour ça. Ça peut sembler un peu une folie, mais ça vaut la peine parce que c'est un grand trésor. Et tout comme il dit, c'est aussi comme un marchand qui trouve une perle, la perle de sa vie. Un marchand qui cherche vraiment, qui aime les perles, il trouve la plus belle perle de sa vie, et ben il va tout vendre tout ce qu'il a pour avoir celle-là. Ça montre aussi que le royaume de Dieu mérite tout sacrifice. Mais en même temps, ce contraste entre le fait que d'un côté on dit le royaume est déjà présent et que c'est encore à venir, c'est parfois difficile à vivre. Parce que ça veut dire que le mal est encore là. Ça veut dire que on est dans un monde où bien des choses sont mêlées. Et là aussi Jésus a voulu parler de ça. Matthieu 13, versets 24 à 30, il a proposé une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, et il a semé de l'ivraie parmi le blé, et il s'en est allé. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut en même temps. Les serviteurs du maître de maison vinrent et dirent, « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Mais est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher ?»« Non, dit-il, parce qu'il ne faudrait pas qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. » Laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est vraiment très très délicat, ce texte-là. Probablement Jésus revient ici à la création, un homme qui sème un champ, l'homme qui sème la bonne semence, c'est déjà Dieu au départ qui plante le monde, qui plante le jardin d'Éden. Et on insiste sur le fait que c'est un homme qui a semé une bonne semence. Ce que Dieu fait, c'est bon. Ensuite, Jésus dit, le mal, c'est comme une mauvaise herbe. Le côté parasitaire du mal qui vient tout gâcher. Ça ressemble un petit peu au bien et en même temps, c'est une herbe comme l'autre et en même temps, ça parasite tout. Hein. Et c'est exactement cela, le mal. Et quand on essaye de dire le mal, pourquoi il est là, Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il n'explique pas. Et je crois que pour nous, c'est parfois une réponse à nous donner pourquoi tout ça. En tout cas, on sait que c'est un ennemi qui a fait ça, et c'est pas de Dieu. Et puis il y a cette idée, mais pourquoi ça cohabite ensemble? Pourquoi il y a ce temps? Pourquoi c'est pas réglé tout de suite? Et je dis, écoute, si vraiment on faisait ça, il faut finalement que chaque chose arrive à sa maturité. Si chaque chose arrive à sa maturité, à ce moment-là, on arrive à mieux faire la différence des choses. Et ça dit que vraiment, il y a aussi un temps qui est donné, le temps de la grâce, hein. Il y a des gens qui, peut-être au départ, ressemblent à de l'ivraie, mais qui peuvent devenir du bon blé. Là, c'est moi qui développe un petit peu les choses. Il faut laisser le temps de la grâce se manifester, mais en même temps viendra le temps du jugement. Donc Jésus donne ici un cadre pour penser la complexité. Vous voyez qu'il y a vraiment une réalité assez complexe sur le thème du royaume, mais en même temps, avec des repères que Jésus nous a donnés, et il a tenu à bien imager ça pour qu'on puisse les comprendre. Alors, quelles sont les implications pour nous? Je termine juste avec ces quelques remarques très rapidement. Première implication, c'est de nous dire le royaume a été inauguré. C'est une réalité en marche. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut nous rappeler de ce fait. Jésus a inauguré dans le monde une réalité nouvelle. Ce qui veut dire que le monde n'est plus pareil depuis que Jésus est venu. Le salut est disponible, Dieu transforme des vies, sa puissance s'étend à tous les domaines, sa bonté aussi. Et il faut vraiment nous en rappeler, le royaume a été inauguré, c'est une réalité en marche. On n'est pas juste des nostalgiques du bon temps d'autrefois, on est en train de dire ce que Jésus a commencé, cela continue. Alors certes, puisqu'il est question du règne de Dieu et pas d'un royaume établi comme ça, cette réalité est souple. Dieu reste libre de manifester ici ou là, avec plus ou moins de force ou de visibilité, son action, etc. Il y a une liberté de Dieu pour cela, ça c'est clair. Tout ne doit pas se passer à tous les moments exactement de la même manière. Ça on peut le dire parce que c'est le règne de Dieu. Et il y a des moments où c'est le temps vraiment où Dieu donne des signes très forts. Il y a des moments où Dieu appelle un peu plus à la foi, à la persévérance. Mais ça, ça lui appartient. Mais donc ça c'est vrai, il faut le dire. Ceci dit, quelque chose a été inauguré et nous vivons déjà quelque chose où on sait que c'est comme une sorte d'anticipation du futur qui est déjà rentré dans la réalité humaine. Et je crois qu'il faut qu'on le mette bien dans notre tête. Deuxième chose, il est question du règne de Dieu. Comment est-ce qu'on va pouvoir entrer au mieux dans cette perspective? C'est d'abord si nous reconnaissons la royauté du Seigneur sur notre vie. Et je crois que quand on parle du règne de Dieu, du royaume de Dieu, que ton règne vienne, quand on prie cela, ça veut dire d'abord, ben Seigneur, que toi tu puisses vraiment être le maître de ma vie. Et comment est-ce que nous pourrons découvrir aussi toutes les richesses, les autres richesses du règne de Dieu? C'est si vraiment nous avons cette disposition première à dire, Seigneur, c'est toi qui dois régner d'abord en moi. Je veux vraiment te soumettre ma vie totalement. Mais en même temps, quand on parle du royaume, on rappelle que ça inclut plus que ma propre vie. Le royaume, que ton règne vienne, c'est aussi vraiment quelque chose de plus global que le Seigneur veut vraiment manifester. Et il est important pour nous de le garder en espérance. Troisième idée que j'aimerais rappeler, c'est que rappeler simplement que la royauté de Dieu, c'est le meilleur des bienfaits. Donc c'est très intéressant de voir la façon dont Jésus a illustré ce qui se passe quand Dieu règne. C'est magnifique simplement. C'est magnifique simplement parce que Dieu est un Dieu d'harmonie, est un Dieu de générosité. Et j'aimerais que ça nous encourage aussi à l'obéissance et à ne pas vivre juste une obéissance servile, mais une obéissance joyeuse. Parce qu'on sait vraiment que là où Dieu règne, il apporte l'harmonie. Et c'est ça ce qu'il veut. C'est ça ce qu'il veut. Quatrième élément, je ne sais pas si ça va vous rejoindre, ça veut dire aussi que notre aspiration à voir un monde ordonné, finalement, c'est quelque chose qui est fondé. En tant que chrétien, on a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'on cherche toujours à voir le sens des choses, d'une certaine façon, et à se dire, ce qui m'arrive, d'une certaine façon, ça rentre dans un ensemble. Ça rentre dans un plan de Dieu, ça rentre dans quelque chose qui a du sens et qui est maîtrisé par Dieu. Il y a d'autres gens qui pensent autrement, qui disent le monde n'est qu'un chaos et il faut essayer de vivre courageusement au milieu du chaos des choses, et trouver sa manière d'être. Nous, on pense que tout ça a du sens. Il y a des fois, quand je me regarde penser ça, je me dis, pourquoi tu penses comme ça? Et je me dis, est-ce que tu as trop besoin de ça, juste? Est-ce que c'est toi qui as besoin de dire, finalement, il faut qu'il y ait un petit peu de sens à tout ça, c'est trop difficile de voir ça tout chaotique partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut nous fonder à penser qu'il y a un sens à tout ça? Je crois que ce que Jésus a manifesté, Jésus parle du règne de Dieu. Jésus dit, il y a quelque chose qui a commencé et qui doit être achevé. Et je pense que c'est une des raisons qui peut vraiment nous légitimer aussi à nous dire, oui, quand je pense à la vie, quand je pense à ma vie, moi qui ai donné ma vie au Seigneur, je peux aussi essayer de voir les choses en relation avec cette lumière-là. Et ce n'est pas juste moi qui ai besoin de ça, mais c'est Jésus qui est venu le manifester. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider. Si vous posez ce genre de questions, comme ça m'arrive à moi, ça peut vous aider. Si vous ne les posez pas, vous êtes heureux, êtes-vous, et vivez comme ça. Dernière implication, il est important pour nous aussi de savoir anticiper le royaume qui vient. Ça veut dire qu'il faut aussi, on attend vraiment que le règne de Dieu se manifeste, ce qui veut dire que par notre vie, par nos choix, il y a des fois, on va être prêt à dire, oui, je suis prêt à miser quelque chose pour ce royaume. Comme celui qui a trouvé ça comme une belle perle, il va être prêt à vendre d'autres choses pour avoir cette belle perle. Alors ça nous arrive, quand on prend du temps pour faire ce qui contribue, pour chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Quand on prend du temps pour ça, quand on investit beaucoup nos énergies, qu'on pourrait faire à bien des choses pour vraiment aller dans le sens de ce qui est l'œuvre de Dieu, nous anticipons le royaume qui vient. Et c'est bien d'être dans cette perspective-là. Anticiper, c'est aussi valoriser ce qui s'est déjà mis en marche. En nous disant, on a confiance vraiment dans l'action de Dieu qui s'est déjà manifestée, telle qu'elle s'est manifestée entre Jésus. Alors c'est sûr que ça se fait toujours entre... on a confiance que voilà, tout ce que Jésus a fait, c'est quelque chose qui inaugure le royaume. Nous, on est dans nos limitations, on ne voit pas non plus l'aboutissement de toute chose. On est un peu entre les deux, mais on doit être prêt à fonctionner de cette façon-là, à valoriser ce qui est mis en marche, à anticiper ce qui est à venir. Ce qui veut dire aussi accepter d'un côté que tout ne soit pas achevé. On sait qu'on est encore dans un monde mêlé, mais en même temps, vivre par la foi, dans la confiance en Jésus et dans la confiance en ce qu'il est venu apporter. Voilà ce que je voudrais essayer de dire autour de cette idée du royaume de Dieu, tel que je comprends en tout cas cette notion chez Jésus. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être une ou l'autre question. J'ai débordé de 5 minutes, mais j'ai fait un peu mieux que les autres fois.